RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France, Christophe Cessieux.
Et nous sommes à Nice ce soir, le peloton du Tour de France et les suiveurs de retour sur le continent après la magnifique escale corse. Nous sommes à Nice, donc au terme de la quatrième étape de ce Tour de France. Nous allons dans quelques instants avec Luc Leblanc, Cyril Guimard et Thierry Bourguignon analyser tout ce qui s'est passé. Et puis nous serons dans une petite demi-heure en direct depuis l'hôtel de la FDJ avec notamment le tout nouveau champion de France Arthur Vichot accompagné de son manager Marc Madiot. Vos questions d'ailleurs au 32-16 sont les bienvenues. Mais avant de parler cyclisme, tout de suite c'est l'heure du Journal des Sports. Et on va commencer, Jean-Louis, par Marion Bartoli, évidemment, qui est sur les cours de Wimbledon et qui est pas mal parti dans son quart de finale.
Exactement, face à l'américaine Sloane Stephens pour cette place en demi-finale. Et ça se passe décidément très bien pour Marion Bartoli. On retrouve Eric Salio à Wimbledon.
Oui, elle a très très bien géré la longue interruption de plus de deux heures puisque elle mène 1-7-0, 6-4, donc il lui manquait les deux petits points à la reprise, elle les a pris et elle a fait le break d'entrée de deuxième set, elle mène 2-0 et même une balle de 3 jeux à 0 sur sa mise en jeu.
Merci Eric, on vous retrouve à la fin de ce journal des sports pour suivre ce match de Marion Bartoli face à l'américaine Stephens. Le drapeau australien flotte sur la promenade des Anglais et ce pour 75 centièmes, c'est l'écart qui a permis à l'équipe Orica Green Edge de remporter le contre-la-montre par équipe à Nice sur le Tour de France. Deuxième victoire en deux jours après le sprint arraché d'un demi-boyau par Simon Gerrans hier, l'Australien qui est le nouveau maillot jaune du Tour.
On a commencé super bien, c'est un rêve. Pour gagner une étape et puis gagner le contre-la-montre par équipe et prendre le maillot jaune en plus, c'est quelque chose d'incroyable. Mais on a réalisé enfin, quand on a fini, on avait le meilleur temps et puis on a attendu de gagner quelques équipes pour finir. Et je pense avec 500 mètres de la ligne de l'équipe Leopard, on a pu qu'on a gagné.
Simon Gerrans avec Pierrick Ten, l'un des envoyés spéciaux d'RMC Sport sur la route du Tour. Côté leader, Alberto Contador a laissé une bonne impression. Son équipe, Saxo Tinkoff, n'a abandonné que 6 secondes au Sky de Christopher Froome. Demain, cinquième étape, Cagnes-sur-Mer, Marseille, avec un parcours à nouveau accidenté à suivre dans l'intégral Tour des 14h sur RMC. La grande boucle, c'est aussi en temps réel sur rmcsport.fr et sur l'appli pour smartphone RMC Sport. En tennis, on le suit évidemment en fil rouge pour Marion Bartoli qui mène un 7-0 et 2-0 dans la deuxième manche. On y revient tout à l'heure. Réaction attendue pour les moins de 20 ans en football. Pogba et ses partenaires disputent leur huitième de finale de la Coupe du Monde. L'obstacle, c'est la Turquie, le pays organisateur. Vous allez suivre ce match sur RMC tout au long de la soirée grâce à Julien Richard. Salut Julien.
Salut Jean-Louis.
Après la phase de poule chaotique, on attend un tout autre visage de la part des Bleuets.
Oui, on les a pas reconnus ces Bleuets. Cette équipe si séduisante lors des matchs de préparation, mais qui a conclu une phase de poule plus que poussive par une défaite de 1 face à l'Espagne. La machine offensive enrayée, l'impression de joueurs aux batteries à plat et aussi d'un peu de suffisance. Les moins de 20 ans ont l'occasion de faire taire ses critiques ce soir. Le défenseur central, titulaire d'ailleurs ce soir, Mouhamadou Nabissar.
Certainement, pas forcément. C'est surtout pour nous, car bon, on reconnaît pas trop notre jeu et on aimerait bien retrouver ce jeu qui était le nôtre. Donc, pas forcément pour faire taire les critiques, mais bon, ça en ferait partie aussi. Donc, on va essayer de tout donner, de faire une bonne prestation. Et pour l'instant, le plus important, ce sera la qualification.
Une mission qualification qu'ils se sont eux-mêmes compliquée, puisque le résultat des poules les a contraints à découvrir les montagnes de l'Anatolie. Un huitième de finale dans la fournaise de Gaziantep, c'est au sud-est de la Turquie, à 50 km de la Syrie, un petit stade de 15 000 places où l'on promet aux Bleuets une ambiance bouillante face aux payottes de ce mondial.
Merci Julien Richard et à tout à l'heure pour suivre la rencontre côté Mercato. Saint-Etienne et Dortmund sont en discussion avancée concernant Pierre-Emerick Aubameyang. C'est une information RMC Sport. Joueurs et clubs sont tombés d'accord. Les Verts attendent désormais une offre à hauteur des 15 millions d'euros attendus. Pour le remplacer, les Stéphanois misent sur Franck Tabanou. Mais autre information RMC Sport, Toulouse a de nouveau refusé une proposition stéphanoise. Enfin, Mickaël Landreau va connaître la dernière saison de sa carrière à 34 ans. S'il dispute au moins 15 matchs, il est face à un record de Jean-Luc Ettori et hasard du calendrier. Son dernier match avec Bastia pourrait être face à Nantes, la même affiche que lorsqu'il avait débuté en 1996. Toute l'actu transfert, c'est sur rmcsport.fr et ce soir, dans l'after à 21h. Enfin, une star mondiale est à Paris. Usain Bolt se prépare pour le meeting Areva samedi que vous vivrez sur RMC en intégralité. François-Xavier de Châteaufort, bonsoir.
Bonsoir Jean-Louis.
Vous avez rencontré cet après-midi le sextuple champion olympique et recordman du monde du 100 mètres. A-t-il déjà commencé à faire le show?
Un tout petit peu, car Usain Bolt, pour tout vous dire, était assez fatigué à son arrivée aujourd'hui lors du point presse, tout simplement parce qu'il est arrivé cet après-midi de la Jamaïque, un voyage Kingston-Londres, Londres-Paris. quasiment une heure et demie après son arrivée à Roissy, eh bien, il a dû avoir droit à ce point presse. Donc, c'était pas évident pour lui. Il l'a même reconnu. Il y a même une journaliste qui lui a demandé est-ce qu'il pouvait faire une petite danse pendant la conférence de presse. Il lui a gentiment expliqué qu'il avait eu un long voyage et qu'il était un petit peu éprouvé. Donc, il va falloir qu'il refasse du jus et qu'il passe une bonne nuit. Mais en tout cas, la conférence de presse était, somme toute, très classique. Il nous a confié qu'il était content d'avoir retrouvé sa bonne forme du moment. Pas celle des premiers meetings qui étaient un petit peu en deçà. Donc, il a vraiment confiance en lui, il va faire le show samedi sur 200 mètres au Stade de France. Il nous a parlé également de la concurrence avec les petits jeunes qui arrivent, ça aussi ça le booste, et donc ça aussi eh bien ça le booste encore plus pour aller jusqu'aux Jeux de Rio 2016. Bref, un Bolt en pleine confiance qui a même répondu à une question sur le dopage, parce que vous savez qu'il y a des cas de dopage en Jamaïque, et il a répondu, il a dit vous inquiétez pas, moi j'ai pas mal de contrôle à longueur d'année, I am clean, je suis propre, la seule chose qui me gêne c'est de me lever à 6h du matin pour faire les contrôles.
Très bien, merci François-Xavier de Châteaufort, on le suivra samedi pour ce meeting à Reva. Avant de retrouver Christophe Cessieux, retour à Wimbledon pour le quart de finale de Marion Bartoli face à l'américaine Stephens. Eric Salio, 1-7-0 pour la française, mais c'est un peu plus compliqué dans la seconde manche.
Ouais, c'est-à-dire qu'elle a eu une balle de 3 jeux à 0 sur son service, elle l'a gâchée, mais là elle a remis de l'ordre dans sa tête puisqu'elle break de nouveau l'américaine qui semble vraiment un petit peu tétanisée par l'enjeu, un peu lente en jambes, donc 6-4-3-1 pour Marion Bartoli. Elle est à 3 jeux de décrocher la deuxième demi-finale de sa carrière. Et un mot sur le match du central, parce qu'il se passe des choses. Petra Kvitova, qui était largement favorite, eh bien semble souffrante, semble malade. Elle a perdu le deuxième set alors qu'elle avait pris le premier. On est à 1-7 partout entre Kvitova et Flipkens. Alors si Marion affronte Flipkens, là, on va vraiment pouvoir rêver de finale.
Eh bien, on va suivre ça. Déjà, la fin du match de Marion Bartoli dans l'intégral tour avec Christophe Cessieux, qu'on retrouve tout de suite en direct de Nice.
Et oui, nous sommes là à Nice. Il fait beau, il fait chaud ce soir sur la promenade des Anglais. Et ça a été chaud tout au long de l'après-midi. Nous allons y revenir, évidemment. Merci Jean-Louis. À demain pour une nouvelle édition du Journal des Sports. Ils sont là avec moi, en ma compagnie, pour évoquer donc cette quatrième étape du Tour de France, remportée par la formation Orica Green Edge. Les Australiens qui frappent fort, ce sont les vedettes depuis le début de ce Tour de France. Bonsoir, monsieur Guimard.
Bonsoir.
On va accueillir également Thierry Bourguignon, qui est avec nous. Salut Thierry.
Bonsoir Christophe.
Voilà, et Lucho va nous rejoindre dans quelques instants. Pour l'instant, il est à la recherche de ses clés de voiture qu'il a perdues. C'est du Lucho dans le texte. Alors, Cyril, on va, avant de tirer les enseignements de ce chrono, peut-être parler de cette équipe Orica Green Edge, véritable équipe surprise, vedette de ce Tour de France. On se souvient évidemment tous de ce bus resté bloqué sur l'arche d'arrivée. C'était lors de la première étape à Bastia. On se souvient également de la victoire de Guérande hier dans un beau sprint, et puis aujourd'hui il récidive, mais avec ses copains. Décidément, ils sont en pleine bourre. C'est la loi des séries, quand ça commence à bien marcher pour une équipe, ça va jusqu'au bout.
Et pourtant ça avait mal commencé, oui. Avec l'histoire du bus là qui accroche le portique sur la première étape à Bastia. Eh bien non, finalement ça annonçait beaucoup de ciel bleu pour cette équipe, beaucoup de ciel bleu, mais on est peut-être passé à côté lorsqu'on a évoqué les équipes capables de s'imposer. Et lorsque l'on regarde cette équipe Orica Green Edge, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pratiquement aucun leader pour le classement général final du Tour de France, mais il n'y a que des coureurs allant vite au sprint ou des rouleurs de caisse. Et en plus, ce sont des coureurs qui sont techniquement supérieurs à la plupart des coureurs qu'on peut trouver dans d'autres équipes, parce que pratiquement tous, ils sont issus de l'école de la piste. Et l'école de la piste, ça permet sur tous les relais d'être un petit peu plus dans l'abri, un peu plus dans l'aspiration, un peu plus près dans les roues, d'être mieux automatisé grâce à un travail énorme fait dans le cadre des poursuites par équipe.
Alors on va écouter tout de suite le replay de l'étape qu'on a vécu donc ensemble tout à l'heure. C'était aux alentours de 17h et la victoire donc pour la formation Orica Green Edge. Replay.
Le meilleur temps de ce contre-la-montre par équipe vient de tomber dans l'escarcelle de l'équipe australienne Orica Green Edge, déjà vainqueur de l'étape d'hier à Calvi par l'intermédiaire de Simon Gerrans.
Le dernier kilomètre donc pour cette formation Radio Shack, alors que dans le camp Orica Green Edge, on se congratule Fred, car désormais c'est une certitude. Simon Gerrans va dans quelques instants maintenant revêtir le premier maillot jaune de sa carrière, en tous les cas sur les routes du Tour.
La Radio Shack en termine à l'instant avec 29 secondes de... de retard sur l'équipe Orica Green Edge. Victoire d'Orica pour une seconde devant l'équipe Omega Pharma. La Sky est troisième à 3 secondes et la Saxo de Contador à 9 secondes.
RMC Intégral Tour.
Voilà, une petite seconde, même pas une seconde, je crois 75 centièmes de seconde qui fait toute la différence, qui fait tout le bonheur. Ça suffit, hein, en matière de vélo, il suffit d'un millième ou presque, un centième en tous les cas.
Un millième suffit.
Un millième suffit. Lucho, c'est vrai qu'on est content pour cette formation, qu'on connaissait guère finalement avant le départ de ce tour. Certes, ils avaient de bons résultats, mais là, franchement, bingo depuis le début du tour. Hein.
Ah oui, là, je crois qu'on entend parler de l'équipe Orica Green Edge depuis le départ du tour, avec le bus sous le portique, la victoire de Guérance, le chrono par équipe aujourd'hui, le maillot jaune. Enfin, je crois que là, ils ont vraiment rempli à 100% leur rôle sur ce Tour de France et surtout leurs objectifs. Maintenant, à savoir quand est-ce que Guérance va perdre son maillot jaune. Il va certainement le perdre dans les Pyrénées, mais ceci dit...
Il peut le garder
demain, ouais. Après-demain, sans problème, voire sur aussi Montpellier et Albi, il n'y a aucun souci.
Thierry, on sait que les coureurs cyclistes, les sportifs en général, sont plutôt superstitieux. Là, on a l'impression qu'ils sont la baraka, mis à part peut-être le premier jour, mais ça les a motivés en quelque sorte, cette histoire du bus, et qu'on parle d'eux en négatif quelque part. Thierry ?
Non. Oui, excusez-moi. Excusez-moi, il y avait un problème de ligne. Bien sûr, c'était peut-être un signe, le coup du bus. Hein. On s'en est pas aperçu, mais signe du destin. Orica a voulu se montrer sur le tour dès le premier jour. Et puis, cette victoire, ça fait du bien à Orica et ça fait très mal à Omega, surtout.
Ah oui.
Puisque même pas pour une seconde, ils perdent l'étape et je sais pas s'ils vont s'en remettre.
Ouais, et une nouvelle fois, c'est une déception pour Sylvain Chavanel, qui est ce soir le premier Français au général. Il est cinquième à une petite seconde à peine du maillot jaune de Simon Gerrans. Mais une nouvelle fois, Chavanel, c'est la troisième fois en trois jours qu'il passe à côté d'une victoire d'étape. Aujourd'hui, c'était par équipe, mais hier et avant-hier, c'était en individuel. Alors, on va tirer les enseignements de ce chrono parce qu'il est intéressant à plus d'un titre. On attendait évidemment peut-être la domination de la formation Sky de Chris Froome. Or, eh bien, ils n'ont pas été si dominateur que cela, Cyril. Certes, ils sont dans le coup, hein, ils sont à 3 secondes seulement de la formation Orica, mais vu les prestations précédentes dans ce genre d'exercice de la formation Sky, on s'attendait peut-être à ce qu'ils écrasent cette première étape et qu'ils écrasent peut-être dès aujourd'hui le classement général. Il n'en est rien.
Oui, on pouvait supposer qu'ils allaient faire des écarts. L'importance des écarts, on pouvait la chiffrer à 15, 20, 25 secondes, et puis finalement, eh bien, alors c'est vrai, 3 secondes, ça fait 50 mètres, hein, donc sur 25 kilomètres, ça n'est pas énorme pour la victoire par rapport à Orica Green Edge, mais ce qui est important, c'est que ils ont démontré que leur équipe était peut-être moins puissante que celle de l'an dernier, qu'elle avait un rayonnement beaucoup moins important, et cet écart me paraît quand même significatif par rapport à la puissance de l'équipe Saxo. L'équipe Saxo n'a pas de vrai grand rouleur dans cette équipe, n'a pas de coureur avec la réputation de pouvoir emmener un contre-la-montre par équipe. Il n'est fait que de grimpeurs. Eh bien, cette petite équipe de grimpeurs n'a perdu que 6 secondes sur la grosse équipe Sky.
C'est ça l'enseignement principal, Lucho, c'est la résistance, plus que la résistance de cette formation Saxo. C'est ce que tu retiens en premier ce soir.
Oui, bien sûr. On s'attendait à avoir un plus gros écart entre la Saxo et la Sky. Il n'en est rien aujourd'hui. Et je dirais que à la limite, Contador doit être vraiment très 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 fort. Il faudra pas l'oublier dans les Pyrénées, dans les Alpes. Et à un moment donné, je crois que Froome risque d'être en difficulté par rapport à Contador, parce que le fait de perdre 6 secondes sur l'équipe Sky, c'est vraiment pas énorme. Et attention à la Saxo.
Ouais. Alors on va écouter tout de suite justement Alberto Contador, que Georges Quirino a traqué sitôt la ligne d'arrivée franchie. Alberto Contador, est-ce pour lui une surprise d'être si proche finalement des Sky ce soir ?
L'équipe que j'ai avec moi est très forte. Peut-être que les autres équipes étaient plus favorites que nous, avec de bons rouleurs. Mais nous sommes contents de ce contre-la-montre. On est resté proche des meilleurs. C'est vraiment une bonne prestation.
Voilà, c'est vraiment une bonne prestation, nous dit Alberto Contador. Thierry, ils ont bien préparé leur coup tout de même, les Saxos. Hein. Ils étaient dans l'ombre, cachés, tapis dans l'ombre. On se disait qu'ils allaient prendre une branlée aujourd'hui. Bah non, ils sont là, bien là. Et finalement, on se dit que Contador et les siens vont être également présents dans la montagne. Et finalement, ce duel annoncé aura bien lieu entre Contador et Fon. On l'espère en tous les cas. Peut-être qu'on on s'enthousiasme un peu trop vite, mais en tous les cas, rien n'est fait ce soir, quoi.
Non, mais je pense que pour ce qui concerne les vainqueurs potentiels du Tour de France, puisque il a 6 secondes de retard sur Froome. Je pense que sur les étapes à venir dans les Pyrénées et dans les Alpes, on va avoir vraiment un gros mano-mano entre les deux, plus les grimpeurs qui vont être là pour les étapes. Ça va être, je pense, un tour exceptionnel comme on le pensait. Mais on avait peur, bien sûr, de l'équipe Sky qui enfonce le clou aujourd'hui et qui tue même le sport et le Tour de France ce jour. C'est pas le cas, c'est tant mieux.
Tant mieux, exactement, tu as raison. Pour le moral en plus, Cyril, c'est bon, c'est pour le moral de Contador de ne pas prendre comme ça une rouste aujourd'hui. Il se dit qu'il est dans le coup, ses coéquipiers sont dans le coup. Ça te donne le moral et on sait qu'un sportif, ça marche aussi à la tête. Hein.
Ben, un sportif, oui, mais tout le monde marche un peu avec la tête, heureusement.
Oui, mais là, on est dans le Tour de France. Donc,
donc c'est vrai qu'il y a le moral en hausse chez la Saxo et je pense le moral en baisse chez la Sky. Moi, c'est ce que je pense qui est en train de se passer. C'est que la Sky pensait avoir peut-être 20 ou 25 ou 30 secondes, c'est-à-dire une petite marge, un petit matelas, suite à ce contre-la-montre par équipe. Ils ne l'ont pas eu. Pour eux, c'est un échec. Il faut le reconnaître comme ça. Alors, maintenant, c'est un échec aussi qu'il faut relativiser dans la mesure où ils avaient deux coureurs blessés. Mm-hmm. Donc, cela peut expliquer le faible écart entre les deux équipes.
Chris Froome, tiens, on va l'écouter tout de suite. Chris Froome, interrogé là aussi à l'arrivée par Georges Quirino. Chris Froome qui, finalement, lui aussi n'est pas déçu. Hein, il est devant Contador. Et puis en plus, il ne va pas avoir à supporter la charge du maillot jaune. On sait que c'est difficile pour une équipe. Il est finalement soulagé de ne pas avoir récupéré le maillot jaune, en tous les cas dans son équipe ce soir. Chris Froome.
Si nous avions pris le maillot jaune aujourd'hui, ça aurait été seulement pour quelques secondes. Alors je crois que c'est mieux de ne pas le prendre parce qu'on aurait dû rouler en tête de peloton les prochains jours. Ça aurait pu coûter beaucoup d'énergie pour seulement quelques petites secondes. Donc je pense que c'est mieux de ne pas avoir le maillot jaune.
Voilà, c'est mieux de ne pas avoir le maillot jaune. Le maillot jaune, ils l'auront peut-être d'ici la fin de ce Tour de France. Allez, tout de suite, on joue dans l'intégral sport ce soir. Comme tous les soirs, nous vous offrons 5 paires de lunettes de soleil Tour de France. Pour gagner, il faut répondre à la question suivante. Quel coéquipier de Simon Gerrans, le nouveau maillot jaune, a un nom de famille très enfantin? Si vous pensez que la bonne réponse est Jason Kidd, vous envoyez A par SMS au 732-16. Et si vous pensez que la bonne réponse est Matthew Goss, vous envoyez B par SMS au 732-16. J'en connais quelques-uns qui se font plaisir ce soir. Indice, l'un des deux est un basketteur NBA tout récemment retraité. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Nous allons prendre la direction de l'hôtel de la Française des Jeux parce qu'eux aussi, ont brillé ce soir. Et Thibaut Pinot n'a pas grand-chose de retard. Et donc, toutes ses chances sont intactes pour le classement général. On sera dans leur hôtel avec Marc Madiot et Arthur Vichot dans quelques instants.
RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France, Christophe Cessieux.
Et avant de retrouver Marc Madiot, le manager de la formation FDJ, et Arthur Vichot, le tout nouveau champion de France, un nouveau détour par Wimbledon, Marion Bartoli sur un nuage ce soir. Eric, salut à Wimbledon.
Ah, ça se présente très très bien. Elle n'est plus qu'à 3 points du bonheur, Christophe, c'est incroyable. Stephen, c'est en train de s'écrouler complètement. 6-4, 5-3 pour la numéro 1 française. Elle est au service 15-0. Stephen, tenez-vous bien, n'a remporté qu'un seul point sur sa mise en jeu depuis le début du deuxième set. Donc c'est une véritable catastrophe pour l'américaine. Et Marion se dirige tout droit vers sa deuxième demi-finale à Wimbledon après son épopée de 2007, puisque là elle est en train de tenir sa proie. Je vois pas comment ça peut lui échapper, même s'il y a forcément un peu de stress. Mais là elle, vraiment Stephens donne trop, ce sont des cadeaux à gogo. Et l'américaine, même si elle a un caractère, là elle est en train d'exploser complètement. Voilà encore deux points, 6-4, 5-3, 30-0 sur le service de Marion Bartoli, qui aura vraiment remarquablement géré la longue interruption puisque on le rappelle, hein, le match avait été interrompu à 16h30 heure française et il n'a repris qu'il y a environ une vingtaine de minutes. Donc je pense qu'elle a bénéficié de tous les conseils des personnes qui comptent pour elle, à commencer par Amélie Mauresmo, son sparring, préparateur physique a dû faire de bon boulot parce qu'elle est revenue sur le court vraiment ultra mobile, et c'est ce qui a fait complètement la différence. Donc Marion Bartoli à 2 points de la qualif pour une demi-finale à Wimbledon. On surveille aussi le match du central, puisque elle affrontera la gagnante de Kvitova Flipkun. C'est très serré, on est dans le 3e set et on le sait, Kvitova semble souffrante puisqu'on lui a pris sa température sur le court. Donc ça pourrait être une demi face à Kirsten Flipkun, la Belge, que pas grand monde connaît. Une joueuse redoutable quand même, mais ce serait évidemment non pas un boulevard, mais une chance inouïe de pouvoir remporter cette demi-finale. On n'est pas encore là. Encore 2 points pour Marion, 30-15 sur le service de la Française.
Très bien, tu nous rappelles dès que la balle de match est là.
Okay.
Elle arrive la balle de match. On le sent, ça arrive. Merci Eric. Nous revenons ici donc à Nice au terme de la 4e étape de ce Tour de France, remporté donc tout à l'heure par la formation Rika Greenedge. Le maillot jaune, je vous le rappelle, sur les épaules de Simon Gerrans, et nous sommes en direct depuis l'hôtel de la formation FDJ avec Pierre-Yves Leroux, notre tinta reporter, qui est en compagnie de Marc Madiot, que je salue. Salut Marco.
Ça part mal, Christophe. Vous allez tout de suite prendre un revers.
Là, comment ça, qu'est-ce que j'ai dit, Christophe? Ah non, mais parce qu'il faut. Alors, non, mais vous changez de nom tous les ans. Alors c'est quoi maintenant le nouveau nom?
Absolument pas. FDJ. FR.
D'accord, fdj.fr. Tu savais, Cyril,
ouais,
ça
on est passé à Internet. Hein.
Est-ce que tu tweets, Marc? On va te suivre sur Twitter.
Ah non.
Ah, tu tweets pas,
non.
Parce que c'est la
non.
grande mode des coureurs.
Oui, mais je me méfie des tweets.
Oui, il faut faire attention. De toute façon, le buzz, ça, on sait ce que c'est. Et le buzz, Marc le fait souvent, notamment l'autre jour. Le premier jour, tu nous as poussé un coup de gueule qui nous a bien mis dans le Tour de France. Hein, on s'en souvient. Marc, c'est une façon d'entrer dans le Tour. Mais c'est vrai que tu étais très colère à l'encontre des organisateurs. Est-ce que ta colère est retomber aujourd'hui après ce contre-la-montre par équipe?
Bon, on va oublier, on va passer à autre chose. Hein.
Et Cyril rigole en disant il est toujours en colère. Bon Marc, on va revenir évidemment sur contre-la-montre par équipe et la très belle prestation de ton équipe, hein, qui termine 15e, 42 secondes de retard. Est-ce que tu t'attendais à une aussi bonne prestation de tes coureurs aujourd'hui?
En place, 15e, c'est moyen. En temps, c'est intéressant, dans la mesure où on lâche une quarantaine de secondes, voire même moins sur certains des principaux favoris du Tour. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'était de voir la capacité de progression du groupe, qui n'est quand même pas un groupe de spécialistes pour le chrono par équipe, puisqu'on n'avait pas forcément nos meilleurs rouleurs aujourd'hui au départ de cette épreuve. On a plutôt construit une équipe relativement axé sur la montagne pour le Tour de France de cette année. Donc on n'avait pas des purs rouleurs, mais il y avait de la cohésion, il y avait de l'envie, il y avait des garçons qui avaient envie de travailler pour mettre Thibaut Pinot dans de bonnes dispositions avant d'attaquer la montagne dans quelques jours. Donc chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice. On a encore des progrès à faire techniquement, mentalement aussi sans doute, dans la logistique aussi, mais on est sur la bonne voie, on a commencé à bien travailler sur le matériel, notamment les vélos, les combinaisons de chrono, on avait des nouvelles combinaisons, on essaie de progresser dans tous les domaines. Il n'y a pas que les anglo-saxons qui travaillent dans ce sens. On a lancé une cellule de recherche au sein de l'équipe et on essaie vraiment d'aller chercher les secondes là où on peut les trouver.
Comment tu as trouvé Thibaut Pinot? On sait que le contre-la-montre n'est pas sa spécialité. On sait qu'il a beaucoup de progrès à faire là-dedans pour envisager un jour jouer un rôle très important dans le Tour de France. Est-ce que tu sens qu'il a progressé depuis l'année dernière, ou est-ce que entraîné par son équipe aujourd'hui il a limité les dégâts? Est-ce qu'il est en progrès dans cet exercice, Marc?
Bah, il est en progrès déjà parce qu'il a pris une année d'expérience supplémentaire. L'an dernier, il est arrivé sur le Tour pour découvrir ce qu'était le Tour de France. Bon, on connaît le résultat qu'il y a eu derrière. Donc là, il a trouvé, à travers sa prestation de l'an passé, de la confiance, de la sérénité et surtout du soutien auprès de son équipe et de ses coéquipiers. Aujourd'hui, on a essentiellement construit l'équipe autour de lui avec l'ambition d'être performant sur le Tour de France. Jusqu'à l'an passé, on se lançait parfois dans des échappées un peu au long cours en lançant la pièce en l'air, en espérant qu'elle retombe sur le bon côté et puis qu'on mette la balle au fond sur des circonstances favorables. depuis le départ du Tour de cette année, depuis le début de la saison et progressivement depuis la fin de saison dernière, on essaie de construire autre chose, autrement, pour aller jouer dans la cour des grands. Alors, on n'est pas dans la cour des grands, on n'est pas encore des grands, mais on essaie de s'inspirer et de se rapprocher de ce qui se fait de mieux dans les grandes structures, dans les grandes équipes. Sur le Tour de Suisse, on a été en certains moments en capacité de prendre la course en main. Sur le Tour de Romandie, on l'a fait également, notamment avec un coureur comme Francis Mouret qui travaillait pour Thibaut Pinot dans une ascension de col. Alors, il y a encore des choses à régler et à améliorer. On l'a fait l'autre jour dans l'étape, la deuxième étape du Tour. Donc, progressivement, on veut être acteur de la course. Alors, on va peut-être pas encore y arriver comme on le voudrait peut-être cette année, mais on prend position, on prend marque, ouais. Et on essaie de s'inspirer de ce qui se fait à l'extérieur.
Cyril, tu as un petit mot à dire à Marc et sur changement de stratégie. C'est vrai que l'équipe de Marc était habituée jusque-là à faire des coups sur le tour avec ses jeunes coureurs, mais là, c'est vrai que cette année, avec un talent tel que Thibaut, on change du tout au tout, ou presque.
Oui, mais c'est tout à fait logique et l'analyse de Marc est parfaitement cohérente. Lorsqu'on n'a pas de coureur capable de venir naturellement dans un top 10 du Tour, à partir de ce moment-là, on va jouer sur d'autres jeux. Donc on va essayer d'aller dans les coups, on va essayer d'aller chercher les classements intermédiaires, on va essayer de se montrer, parce que sur le Tour de France, on est aussi là pour se montrer. Et là, maintenant qu'ils ont un fil conducteur, un fil d'Ariane avec Thibaut Pinot, à partir de ce moment-là, ils changent complètement de stratégie. On les a pas vus dans les échappées, alors que par exemple, on a vu énormément l'équipe Rockcar, on a vu Sojasson également, mais c'est leur course, la course de la FDJ.fr.
Ouais, voilà, tu vas pas te faire taper sur les doigts, toi.
Donc la FDJ.fr a fait une course en courant sur les leaders, et on s'aperçoit d'ailleurs ce soir, je pense que Marc l'a dû le faire, et bien que Pinot n'est qu'à 39 secondes de front, parce que si on fait un premier classement, on a Contador à 6 secondes. On a Vandenbroek, Ejdal et Dan Martin et Talansky à 14. On a trois costauds, la Quintana, Valverde et Rui Costa à 17. Evans Van Garderen à 23. Andy Schleck à 26, qui est quand même une belle performance par rapport à ce qu'on avait vu avant le tour. Et puis on a Thibaut à 39 secondes, Perrault à 1-1 et Roland déjà à 1 minute 10. Donc on est dans la course des costauds, on est dans la course du classement général. Et je trouve tout à fait logique le discours de Marc. Ouais.
Marc, les Pyrénées, c'est pas encore tout de suite, c'est dans 2-3 jours. Qu'est-ce que tu attends de ce premier massif? Il n'y aura que deux étapes. Que va faire Thibaut? Qu'est-ce qu'il a intérêt à faire? Essayer de suivre les meilleurs ou essayer d'attaquer? Quelle va être ta stratégie avec lui? On sait qu'il n'obéit pas toujours. Hein.
Non, mais on a un deuxième palier à franchir, arriver au pied des Pyrénées dans la situation où nous sommes aujourd'hui.
Ouais.
On n'y est pas encore.
Bien sûr.
Donc l'idée, c'est de fonctionner autour de Thibaut et de Nasser aussi également, si l'occasion se présente, pour arriver dans de bonnes dispositions au pied des Pyrénées. Mais l'idée, c'est de rester sur notre fil conducteur, de rester sur ce que l'on s'est fixé comme ligne de conduite jusqu'au pied des Pyrénées. Et à ce moment-là, après la première étape des Pyrénées, on verra à quel niveau ça peut jouer.
Très bien. Donc il faut attendre encore un petit peu avant de savoir où ça va aller. Alors tu disais, il n'y a pas que Thibaut Pinot dans cette équipe, même si tu as construit ton équipe autour de lui, mais tu le disais, Nasser Bouhanni est là, même si il a été un petit peu malchanceux jusqu'à présent, mais demain on retrouve peut-être un terrain d'expression plus pour ses qualités de sprinter. Il l'adorerait, j'imagine, et toi aussi, qu'il puisse taper Cavendish et les autres grosses cuisses. Hein.
Oui, mais pour Nasser, c'est encore la phase de découverte du Tour. Nasser, c'est un teigneux, c'est un coureur qui a du caractère. Et il s'imaginait le Tour de France comme Paris-Nice ou comme le Tour méditerranéen ou le Tour de Turquie. Et il découvre dans le Tour de France que... Bien, le Tour de France, il faut en permanence calculer ce que l'on va faire et tout se paye cash. Le fait de s'accrocher avant-hier lui a coûté très cher hier. Il a pris un coup de chaud par là-dessus avec la grosse chaleur qu'il y avait sur l'étape. Mais il a compris qu'en s'accrochant trop comme il l'avait fait la veille, il avait laissé des forces et d'énergie qui lui ont peut-être manqué pour rester plus tranquille au sein du peloton hier. Aujourd'hui, il s'est refait une petite santé dans le chrono par équipe. Il a été à un niveau nettement supérieur à ce que l'on attendait de lui. Donc, moi, ce que j'essaie de lui expliquer, notamment depuis le Dauphiné, c'est que le Tour, c'est un autre monde, c'est différent, tout est amplifié, déformé, et à partir de là, quand on est dans la course, on n'est pas dans une course traditionnelle et normale, tout est modifié. Quand on est sur une course, je dirais, traditionnelle, d'aller dans les échappées. Peu de monde cherche à trop à y aller parce qu'on sait que ça n'a pas forcément un grand intérêt. Sur le Tour de France, on va dans les échappées pour passer à l'antenne, passer à l'écran, pour aller chercher, comme le disait tout à l'heure Cyril, un classement annexe, un classement de la montagne ou un classement par points dans beaucoup de courses par étape n'a que peu d'intérêt. Sur le Tour, ça prend beaucoup de proportions. Donc tout est modifié. Et forcément, alors tout le monde se polarise sur le Tour, mais j'ai envie de dire, c'est le Tour de France, c'est une course complètement caricaturée par rapport à ce que sont les vraies courses par ailleurs.
Les vraies courses, d'accord.
Ben oui, mais parce que le Tour est totalement différent de ce que l'on rencontre le reste de la saison. Ouais. Donc à partir de là, les comportements et les évolutions des uns et des autres changent. Ouais. Regardez la nervosité et les tensions nerveuses qu'il peut y avoir au sein du peloton pendant les premières étapes. Ouais. Quand on fait une course ailleurs dans la saison, il n'y a pas ce problème-là.
Je t'interromps deux secondes parce que on retourne à Wimbledon. Mario Bartoli qui était tout proche de remporter son match. Eric Salieu, est-ce que c'est fait?
Oui, je suis là, oui.
Eric?
Oui.
Alors, c'est fait?
Ah non, c'est pas fait, pardon.
Ah bon, on me demande. Alors, elle en est où?
Ah là là, ça fait 5 partout au deuxième. Ah oui, elle s'est retrouvée 5 fois à 2 points du match, Christophe, puisqu'elle a servi donc à 5 jeux à 3. Elle a même mené 30-0. Et il faut reconnaître que Edin Stephens a un mental de folie. Et puis Mario a un petit peu pétoché, ouais, quoi, forcément, ouais. Hein, parce que la demi était si proche qu'elle a moins lâché ses coups et l'américaine en a profité. Mais bon, je suis pas encore complètement inquiet puisque Mario mène 40-0 sur sa mise en jeu. Elle va donc, selon toute vraisemblance, faire 6 jeux à 5.
Très bien, merci Eric. À tout à l'heure, Marc Madio, le manager de la formation FDJ.fr. T'as vu, j'y suis arrivé, Marco.
Trop fort.
Et puis il y a ton champion de France, ton tout nouveau champion de France, qui est également là sur les routes du Tour. Et là aussi, on espère beaucoup de lui. Et quel est son rôle sur les routes du Tour? J'imagine qu'avec la découverte de ce maillot tricolore, ça change un peu la donne. Il devait être là pour épauler Thibaut. Est-ce qu'il aura lui peut-être une chance d'aller chercher une étape?
Il est d'abord là pour épauler Thibaut, c'est là où le changement de vie de l'équipe se situe également. On met vraiment l'accent sur toute la première partie du Tour, sur on court autour d'un leader, on court pour un leader, et les rôles sont bien déterminés par rapport à cela tout au long des étapes. Donc ne comptez pas trop sur nous pour nous voir dans les échappées dans les 2-3 jours qui viennent. On verra cela un peu plus tard. Alors après, on verra comment la course va évoluer. Il est certain qu'un coureur comme Arthur Vichot peut aller gagner une étape dans le Tour. Il en a les capacités, il en a le potentiel. Mais c'est d'abord la course d'équipe et l'objectif classement général et victoire d'étape éventuellement pour Nasser ensuite qui détermineront notre façon d'évoluer dans ce Tour de France.
Très bien, Marc.
C'est aussi une des raisons pour lesquelles des très bons coureurs de l'équipe ne sont pas sur le Tour. Comme je l'aurais dit, autrefois on faisait du Tour de France presque une récompense pour les coureurs. Aujourd'hui, ça n'est plus une récompense. C'est un objectif collectif et ils sont là pour représenter une équipe.
Eh oui, on est monté d'un cran au sein de ton équipe. D'autres objectifs. Merci Marc d'avoir été avec nous en tous les cas.
Voilà messieurs, bonne soirée à vous.
On reviendra tout à l'heure à 20h, toujours avec Pierre-Yves et avec d'autres directeurs sportifs et d'autres coureurs. 19h45, l'Intégral Sport revient dans une toute petite minute.
RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France, Christophe Cessieux.
49 sur RMC, tout de suite retour à Wimbledon, une bonne nouvelle, ça y est, elle est là la bonne nouvelle Eric.
Ouais, victoire de Marion Bartoli, 6-4, 7-5, elle a imposé son expérience à Stephens et donc elle est en demi-finale de Wimbledon et dans deux jours, elle affrontera la gagnante du match qui n'en finit plus de s'achever entre Kvitova, la Tchèque, vainqueur ici il y a deux ans, et la Belge Flipkens. Il y a 4 partout au troisième set et on sait que Kvitova n'est pas au mieux puisqu'elle a fait venir le médecin. Si c'est Flipkens, et bien voilà, ce sera une chance énorme de refaire le coup 2007.
Eh oui, on y croit pour Marion Bartoli, donc qualifiée pour les demi-finales du tournoi de Wimbledon. Tout de suite le jeu sur RMC. Puisque je vous offre la possibilité de gagner ce soir le Compte Tour, ce magnifique livre sur l'histoire du Tour de France, un livre écrit par Serge Lager et Claude Ménian, nos copains qui ont donc écrit ce magnifique livre. Vous avez toutes les anecdotes et toutes les histoires du Tour de France pour gagner. Je sais plus ce qu'il faut faire, mais je vous le dirai tout à l'heure. En attendant, nous revenons, c'est l'heure des paris.
Les paris RMC, Tour de France.
Il est là avec nous, Benji, Benjamin Ramagé pour les paris. Salut Benji.
Salut messieurs.
Alors aujourd'hui, récapitulatif, qui est dans le bon, qui est dans le dur, quel est le classement?
Personne n'a trouvé Orica Green Edge. En revanche, Christophe, tu m'avais chambré hier. C'est moi le mieux placé avec la victoire de Orica juste devant Quick Step pour une seconde. Ça s'est pas passé loin que je t'envoie un petit SMS pour te chambrer quand même.
Oui, oui. Oh, ben ça c'est facile. Hein. Ça, c'est très facile. Bon, donc au classement, Lucho reste en tête. Hein,
oui, largement. Lucho, maillot vert, maillot jaune.
Très bien. Alors demain, c'est la cinquième étape du Tour de France, Cyril. Lucho est parti chercher ses clés, donc il ne nous donnera pas son vainqueur. Mais je le soupçonne justement de vouloir nous arnaquer et de nous donner un vainqueur que demain, nous écouter d'abord avant de donner son pronostic. Demain, donc cinquième étape entre Cannes-sur-Mer et Marseille, ça ressemble à quoi Cyril? C'est dur, c'est pour qui ce genre d'étape?
Ça n'est pas spécialement facile, mais ça n'est pas spécialement dur non plus. Normalement, les sprinters en bonne condition physique doivent passer. Il y a 228 km, une des étapes les plus longues de ce tour. Alors on a une côte un peu difficile au départ, hein, avec des passages à 8-10% à la côte de Châteauneuf, que tout le monde ici dans la région de Nice connaît. On a le col de l'Ange à Draguignan. C'est-à-dire qu'en fait, on prend la Grande Nationale qui va de Grasse, on va dire, jusqu'à Marseille. Ensuite, on aura Roque-Bruissane, la côte des Bastides. Mais là, elle est à 30 km de l'arrivée. C'est une côte qui monte à 3-4%. Et puis, le col de la Ginesse, que tous les coureurs connaissent bien, à 12 km de l'arrivée.
À 12 km de l'arrivée. Et ensuite, la descente vers Marseille. Cyril, ton pronostic pour demain, qui vois-tu?
Eh bien, moi, je vais jouer Greipel.
Greipel. Oui. D'accord, Greipel, la Ginesse, il n'y a pas de souci.
Non, mais on ne perd pas beaucoup de temps sur la Ginesse. Il y a juste les 300 ou 400 premiers mètres qui sont durs. Après, c'est un long faux plat. Si on a de bons équipiers pour vous mettre à l'abri, ça passe.
Très bien. Thierry, ton pronostic pour demain?
Sagan.
Sagan.
Cette fois, il va pas se louper tous les jours quand même. Hein.
Ouais. Ben, on l'espère pour lui. Benji, tu nous donnes qui?
Alors moi je vais donner Marcel Kittel à 9,50.
Marcel Kittel à 9,50. Et moi je vais prendre un risque parce que au bout d'un moment elle va bien finir par en mettre une au fond. C'est Sylvain Chavanel, il est cinquième au général à une seconde. Il va tenter quelque chose demain. S'il bascule, et on sait que c'est un redoutable descendeur, s'il arrive à prendre quelques mètres dans la descente, sait-on jamais. Donc moi je donne Sylvain Chavanel. On aura le pronostic de Luc un peu plus tard. Merci Benji.
Ciao messieurs.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Très bien. Thierry, tu nous disais quoi? Tu voulais ajouter un truc? Que je prenais des risques?
Non, je te disais que si tu gagnais, tu repassais devant. Là,
ouais,
non
ouais. Bah, oui, il faut prendre des risques. Il faut savoir prendre des risques dans la vie. Frédéric Michel, rédacteur en chef du Parisien, aujourd'hui en France, nous rejoint. Salut Fred.
Oui, bonsoir messieurs.
Le Parisien aujourd'hui en France, évidemment notre partenaire sur ce Tour de France. Alors, demain, qu'allons-nous trouver de beau dans le Parisien aujourd'hui en France, Fred? J'imagine que vous allez revenir et décrypter ce qui s'est passé aujourd'hui dans le contre-la-montre par équipe de Nice. Hein.
Oui, évidemment. Alors, on aurait pu choisir de revenir sur la personnalité et le sourire de Simon Gerrans, le nouveau maillot jaune de ce tour. Et finalement, on a opté pour un autre sourire, c'est celui de Contador, qui, à notre avis, ce soir, est sans doute extrêmement soulagé de par la prestation de son équipe. Je crois que c'est une vraie confirmation que l'équipe Saxo-Tinkoff est bien présente. Contador peut être rassuré à la fois par ses prestations et celles de ses équipiers. Et ça nous semble une très bonne nouvelle pour le tour, puisque je pense que dans le duel à distance avec Sky et Christopher Froome, je crois qu'aujourd'hui c'est la promesse d'un duel que plus rien ne peut empêcher.
Évidemment, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'on se régale à l'avance, que rien ne soit décidé ce soir et que le suspense serait évidemment entier. Il y a eu des déçus aussi, Fred, aujourd'hui, notamment les hommes de Jean-René Bardonneau, la formation Europcar, et puis la Garmin de Millard, qui était quand même la grandissime favorite de cette épreuve.
Voilà, alors David, ouais, effectivement, Millard, c'est un peu le... Bon, c'est pas un drame, effectivement, c'est une vraie déception. On savait que c'était un rêve pour lui de revêtir ce maillot jaune. Bon, voilà, ça fait partie de ces petites histoires du tour, de ces moments comme ça, qui surviennent au fil des jours. Par contre, les vrais déçus, même s'il l'exprime pas trop ce soir, je pense que ça quand même, ça se situe du côté d'Europe Car, qui a passé une journée difficile. Alors, on sait que c'était pas leur spécialité, hein, le contre-la-montre par équipe. Mais en même temps, voilà, aujourd'hui, il y a un classement. On voit notre ami Pierre Roland qui se retrouve quand même à 1:10 hein, de Froome par exemple. Voilà, quand on joue le classement général, il y a eu de vraies faiblesses là, sur ce contre-la-montre pour Europcar. Et voilà, on est revenu effectivement. effectivement dans le détail sur sur cette journée particulière pour Rob Carr.
Très bien Fred, et puis il y aura aussi, on n'a plus le temps d'en parler, un portrait du Brésilien Fischer qui est un équipier de Thibaut Pinot et d'Arthur Bichot au sein de l'équipe de la FDJ.fr.
Le Brésilien qui préfère le vélo au football.
Ah, c'est rare.
Voilà, mais voilà, et qui a ses supporters et qui avait des supporters même jusqu'en Corse. Et je crois qu'au Brésil, voilà, les trois grands tours sont déjà retransmis, le cyclisme est en train de devenir de plus en plus populaire. Et voilà, ça fait partie de ces portraits qu'il faut savourer sur le Tour de France.
Merci Fred, donc à lire demain dans le Paris aujourd'hui en France, évidemment, qui consacre une large place au Tour de France. Salut Fred, à bientôt sur l'antenne d'RMC. Tiens, le jeu, hein, je vous le répète, c'est le compte tour de Serge Lager et de Claude Maignan. Magnifique livre sur les Tours de France, les 100 Tours de France. Pour tenter de gagner votre livre, vous envoyez tout de suite le mot tour par SMS au 7-32-16. Bonne chance. Elle est là, elle est de retour. C'est Virginie Fulpin.
Et elle parie Cavendish. Personne n'a parié sur Cavendish. Non, donc c'est ce qu'elle fait.
Gagner, mais il est complètement absent de ce Tour de France, ton ami Cavendish.
Oui,
présent,
mais Benji m'a dit qu'il avait remporté déjà trois fois la cinquième étape, 2008, 2010, 2011 donc, et 2013. On verra ce qu'en pense Luc Leblanc et Thierry Bourguignon avec moi dans un instant, et vous bien sûr au 32-16. Et puis entre 20h30 et 21h, on va parler football. On aura notamment comme invité Jérôme Valque, le secrétaire général de la FIFA.